Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie Lebihan, nous sommes ravis de vous accueillir à la librairie Mola. Vous êtes là pour nous parler de votre dernier roman qui s'intitule « Qu'il emporte mon secret » qui vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est votre troisième roman. Il met en scène une femme écrivain à succès à la veille d'un procès dans lequel elle doit témoigner. Ce procès réveille un traumatisme lourd, celui d'un viol dont elle a été victime il y a plusieurs dizaines d'années. Ce roman nous décrit donc les quelques heures qui précèdent le procès, mais retranscrit aussi une longue lettre que cette héroïne écrit à son amant, et aussi différentes anecdotes du passé de cette femme. Donc c'est une histoire d'amour, c'est un roman écrit à la première personne, c'est un livre qu'on peut lire comme un thriller aussi. Qu'il emporte mon secret, finalement c'est un texte dense avec de multiples entrées, un roman à tiroir, dont on ne donnera peut-être pas la clé ce soir ici, mais dont on essaiera ensemble d'en saisir les quelques mécanismes, si vous êtes d'accord. Je voulais, pour commencer, peut-être qu'on parle justement de la structure de ce livre, parce que je crois que finalement, vous avez été surprise vous-même à l'écriture, et qu'au départ, l'histoire qui s'est écrite ici n'était pas exactement celle-là.
Non, je voulais parler en fait de... C'était une histoire d'amour, ça devait être une histoire d'amour entre une femme qui approche de la cinquantaine et qui tombe amoureuse d'un homme, enfin qui passe une nuit avec un homme qui n'est pas finalement si jeune que ça, puisqu'il doit avoir à peu près 7 ans de moins qu'elle, mais elle se projette dans ce qu'elle va être, c'est-à-dire la fin de la séduction. Et elle lui écrit une lettre qui est en fait une lettre d'amour, mais une lettre de rupture. Parce qu'en fait, elle veut aussi rompre avec son passé. Mais ça, je pense qu'on va pouvoir en parler. Mais j'ai été très étonnée, en effet, parce que j'écrivais ce livre, et petit à petit, il a fallu que je décrive et que je comprenne pourquoi ce personnage. Parce que quand on écrit, parfois, on est un peu dépassé par les personnages, et il fallait que je comprenne pourquoi cette femme ne pouvait pas aimer. Et puis quand j'ai dit ben voilà, je vais parler d'un viol, je suis allée voir mon éditrice et je lui ai dit ben écoute, je pense que je vais parler de quelque chose qui n'est pas facile à décrire, et elle m'a dit je te fais confiance, donc voilà, c'est comme ça.
D'accord. Face au livre, finalement, on est presque comme devant nous lecteurs, devant un puzzle avec des pièces à reconstituer. Vous aviez eu, il y a eu, même si évidemment la thématique est assez difficile, est-ce qu'il y a eu aussi de votre part une volonté d'ajouter une dimension presque ludique, enfin en tout cas ce jeu-là ?
Oui, alors moi, c'est mon troisième livre, hein, et je commence toujours par la fin. C'est-à-dire qu'il faut toujours que j'ai une fin à laquelle on ne s'attende pas, parce que je me dis, si au moins le lecteur s'est ennuyé avec l'histoire, il va y avoir à la fin un côté un peu thriller qui va le rassurer finalement sur cette lecture. Et c'est un jeu entre le présent et le passé, et j'aime bien construire les romans comme ça.
Vous êtes lectrice de polar?
Oui, j'adore
d'accord.
Les polars.
Henning Mankell, c'est évoqué d'ailleurs dans le livre.
Oui, Andrea Camilleri, des gens comme ça. Et qui d'ailleurs, en fait, Henning Mankell et Andrea Camilleri, sont des auteurs de polar, et c'est comme des groupes de rock. Enfin, moi, je trouve que les meilleurs slows ont été composés par des groupes de rock. Et pour moi, les deux plus beaux romans d'amour que j'ai lus sont Les chaussures italiennes d'Henning Mankell et Le tailleur gris d'Andrea Camilleri. Donc voilà.
Deux très beaux conseils de lecture, je recommande aussi. Alors finalement, ce qui est amusant, c'est quand on lit ce livre après avoir lu les deux précédents, on s'aperçoit que chaque chapitre débute en fait par une date et un lieu, comme une espèce de compte à rebours.
Oui.
C'est la façon que vous avez toujours de fonctionner, ou ça vient après?
Non, c'est parce
c'est
que
votre
je suis
de fabrique.
Je ne suis pas une lectrice très attentive. Et quand je lis des livres comme ça, il n'y a pas de repères spatio-temporels, ça m'énerve d'être obligée de repartir vers l'arrière pour essayer de comprendre. Ah oui, mais on est là. Mais là. Donc moi, j'aime bien tenir les lectrices et les lecteurs par la main, en fait, et les emmener dans mon histoire, mais qu'ils s'accrochent à l'histoire et pas forcément où est-on, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc j'avais besoin de ça aussi. Et c'est vrai que dans mes trois romans, c'est comme ça.
Et finalement, lorsque vous travaillez, est-ce que vos précédents romans servent de terreau fertile au prochain qui arrive, ou est-ce que vous faites complètement table rase? On aura l'occasion de revenir aux places des femmes dans tous vos romans, mais comment vous appréhendez chaque début de roman?
Ben là, par exemple, je sais que je suis en train de... Non, je fais table rase parce que je suis en train de penser à un autre roman maintenant, mais là, j'en ai peut-être quatre en tête. Et je ne sais pas lequel je vais choisir encore, mais je fais table rase. Non, non, ça n'a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les trois,
d'accord.
À part les femmes, oui.
Ces femmes, les femmes, justement, on va rentrer peut-être un peu dans le cœur du sujet et parler un petit peu de cette héroïne. Qu'est-ce qu'elle peut avoir en commun, cette femme qui est écrivain, qui s'appelle Hélène, avec justement les précédentes héroïnes de vos romans que sont Emma et Marion, je crois.
Je me souviens plus. Oui, Marion. Oui, alors c'est des femmes blessées et c'est des femmes qui se relèvent. Donc en fait, c'est des femmes qui se battent contre elles-mêmes. Elles sont plutôt dures avec elles-mêmes. Elles n'ont aucune concession. Et c'est des femmes sans phare. Et c'est ce que j'aime bien. Elles ne sont absolument pas dans la séduction, ni des lecteurs, ni des personnages du roman. Et c'est ce que j'aime bien. Et je crois que c'est pour ça que les hommes... Là, j'ai eu des blogueurs et des hommes qui m'ont écrit des lettres et des messages. Je crois qu'ils aiment bien ce personnage d'Hélène parce qu'elle est réellement... Je pense que je dévoile beaucoup des femmes. Et elle est réellement sans phare. Voilà. Donc,
Et comment vous pourriez la qualifier par quelques adjectifs? C'est une femme qui est...
Elle est cynique.
Mm-hmm. Tout à fait.
Elle est cynique. Elle est courageuse. Elle est, je crois qu'elle a encore cette jeune fille. Donc elle est très sensible, mais elle veut pas l'admettre. Elle n'a aucune aptitude au bonheur, en fait. Enfin, elle croit qu'elle n'a aucune aptitude au bonheur. Et on comprend petit à petit que peut-être pas, finalement. Mais c'est une femme qui est très lucide aussi. Oui.
Mm-hmm. Alors évidemment, la question suivante, et évidemment le rapport qu'on peut faire avec vous, romancière, Sylvie Le Bihan et Hélène, je crois que son premier nom, c'est un consonance bretonne.
Oui,
c'est
oui, tout à fait. Ouais.
Et puis évidemment, voilà, deux romancières, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de vous dans le...
Alors, pas les ventes. Hein, puisqu'elle vend beaucoup, donc c'est pas ça.
Après, elle a un autre rapport à la littérature, on aura l'occasion d'y revenir.
Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a de moi? Ben, je pense, bon, d'abord, c'est une histoire qui est quand même assez personnelle. Hein. Mm-hmm. Après, le problème de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est pas le sujet, puisque c'est un roman. Mm-hmm. Je crois qu'elle est confrontée à une mémoire refoulée. Et ça, c'est très important dans le livre, le rapport à la mémoire, parce que je pense qu'on est tout le temps en guerre contre sa mémoire. Qu'on ait l'Alzheimer, par exemple, on essaie de retrouver sa mémoire, et quand on a envie de ne pas penser à son passé, on est aussi en guerre avec sa mémoire. Et je crois que, comme moi, c'est-à-dire que j'ai passé des années à vouloir occulter des choses, des souffrances, mais ça peut être avec... Par exemple, on a une mort brutale, il y a un moment où on n'est pas capable d'appréhender, on n'est pas capable de digérer des choses qui sont d'une brutalité telle qu'on se dit, bah, écoutez, c'est pas grave, on va le mettre sur le côté, de côté. Et puis, en grandissant, en mûrissant, on arrive à reprendre quelque chose de notre passé. Pas forcément tout, mais on réintègre la personne qui a vécu ce traumatisme.
Oui, mais je crois qu'à un moment, votre héroïne dit justement, l'oubli est une stratégie de survie.
Oui, pour beaucoup, l'oubli est une stratégie de survie. Et je crois que même dans l'infidélité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je pense que dans un couple, quand une personne trahit l'autre, on va pardonner et puis finalement, ça va être un pardon de façade parce qu'on se dit c'est une stratégie de survie parce qu'on peut pas intégrer ça, on l'accepte. Mais on est capable de revenir plus tard dessus et d'en vouloir à la personne alors qu'on a pardonné. Donc c'est très très compliqué donc c'est une stratégie, oui. L'oubli est une stratégie.
Et alors si l'oubli est une stratégie de survie, l'écriture, hein, qu'est-ce que c'est? C'est un devoir de mémoire? Est-ce que c'est une manière... Pourquoi elle écrit?
Alors,
est-ce que c'est ça participe à son voilà à la manière de résister au monde?
Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'est-ce qui me rapproche d'Hélène? Surtout pas l'écriture. C'est-à-dire que moi, j'ai absolument pas écrit ça. C'est pas une thérapie parce que c'est ce que je dis souvent. C'est très dangereux d'écrire alors qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore fait le deuil ou qu'on est en pleine reconstruction parce qu'on tâtonne et que emmener des lectrices et des lecteurs dans un tâtonnement, c'est une responsabilité énorme. Je pense qu'elle écrit surtout cette lettre c'est-à-dire qu'elle c'est une lettre de rupture, évidemment, mais c'est aussi un retour sur elle-même, et elle essaie de comprendre qui elle a été, qui elle aurait pu être si elle avait porté plainte, et qui elle est maintenant, et qui elle espère elle sera après. Donc c'est une lettre qui est très très ouverte, et qui s'étend avec le temps.
Oui. C'est une manière pour elle de mettre les choses à plat.
Oui,
de...
oui. Elle s'écrit à elle-même, en fait.
Voilà. Hein.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les lectrices et les lecteurs, quand ils m'écrivent, ils me disent, mais on a l'impression que vous nous parlez aussi. C'est une sorte de confession. Enfin, Hélène leur parle, en tout cas.
Mais comment il est venu, ce jeu, justement? Parce que dans vos précédents romans, c'était toujours des textes qui étaient écrits à la troisième personne. Là, il y a un jeu qui est troublant. Mm-hmm. Bon, évidemment, on est face à un roman, donc oui. C'est un roman. Mais comment vous avez, à un moment, eu envie de prendre le risque de mettre un jeu ?
Mais j'ai pas trouvé que c'était un risque, le jeu. J'ai trouvé que c'était de l'honnêteté. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, comme c'était tellement intime, il fallait qu'il y ait ce rapport, comme c'était intime et violent, même si tout est très pudique, hein, il n'y a pas du tout de description, mais qu'il fallait que je mette ce lien avec, de vérité avec les lectrices et les lecteurs. Donc ça, je ne me suis pas posé la question de savoir si je prenais un risque ou pas, et peu importe, enfin, je pense que si on n'a pas envie d'écrire, je pense qu'on, d'abord on écrit toujours sur soi, quel que soit le livre, il y a toujours de soi dans un roman. Et donc, le jeu, il s'est imposé, quoi. C'était pas, je pouvais pas dire elle. C'est pas possible. Non. Et puis, dans la mesure où elle écrit une lettre, c'est compliqué de dire elle.
C'est vrai.
Voilà.
Vous avez raison. Pour revenir à la personnalité de cette femme, il me semble qu'il y a une notion de il y a un jeu. J-E-U-X, autour des jeux autour du double dans ce roman. Deux hommes, le compagnon, l'amant, deux figures de femmes, la narratrice et Ève, qui est la compagne de l'amant. Deux mères, si je peux me permettre, hein, la mère qui est biologique, et puis cette femme, Laura, chez qui notre héroïne va s'installer pendant un temps aux États-Unis. Est-ce que finalement... On ne peut pas dire que la problématique centrale de ce livre, c'est aussi la recherche, une recherche de retrouver l'intégrité, retrouver son unité.
Oui, c'est-à-dire qu'elle s'échappe à chaque fois de ce qu'on lui propose pour aller se réfugier ailleurs. Vous parlez par exemple de la mère biologique. La mère biologique, elle est sans affect. Sa mère est sans affect. Sa mère est, mais pas, c'est pas une volonté, c'est pas de la méchanceté, c'est simplement qu'elle se protège elle-même aussi par rapport à cette brutalité et par rapport à cet acte. Mais c'est une femme. Alors là, c'est ça qui est formidable quand on est écrivain. Elle est totalement inventée. Alors ma pauvre mère, on s'est retrouvé dans Paris Match avec en disant votre mère est une mère pied noir, sans empathie, qui n'était pas faite pour avoir des enfants. J'ai tout de suite appelé maman en lui disant attends maman, je suis désolée, il y a chose qui va sortir, mais je ne l'ai jamais dit. Et ma mère me dit, j'ai adoré cette phrase, ma chérie, une pied noire sans empathie, ça va faire vendre. Donc voilà, donc on a l'humour est aussi dans la famille. Et en fait, donc ce personnage, c'est absolument pas ma mère, mais c'est ça le bonheur d'être écrivain, c'est qu'on crée des personnages. Et Laura, qui est la logeuse, c'est mon personnage préféré. C'est une femme qui est dure, qui elle note les amants de sa donc d'Hélène
assez durement.
Oui, d'ailleurs. Assez durement, entre 1 et 10. Et moi j'ai pris plaisir à créer tous ces personnages, vraiment. Mais c'est vrai qu'elle recherche toujours cette intégrité à travers l'autre. Elle n'a pas l'impression, elle, d'être intègre. Elle n'a pas l'impression de valoir quelque chose. Elle le dit dès le début.
Oui, elle se compare. Je ne veux rien. À son amie.
Oui.
Et il me semble aussi que il y a plein de choses, hein, évidemment, c'est un roman qui est très riche, mais justement le rapport aux parents,
oui.
vous tournez autour depuis longtemps, dans vos précédents romans aussi.
Oui, oui, oui.
Et je crois qu'il y a une lecture qui vous a particulièrement marqué à l'écriture de ce livre, hein, qui est un livre d'Alice Miller, je ne sais pas si
oui,
vous pouvez
le drame de l'enfant doué.
Vous en dire quelques mots.
Oui, alors c'est
faire
un
découvrir au public.
C'est un ami journaliste qui m'en avait parlé, et le drame de l'enfant doué, bah, c'est Alice Miller qui était une, je ne sais pas si elle était psychiatre ou psychologue, en tout cas elle était
psychiatre,
je pense, et elle a écrit sur ce fardeau qu'on peut avoir de nos parents, c'est-à-dire que les parents transmettent des blessures d'enfance que eux ont eues à leurs enfants, Et on va essayer de faire, et on le voit régulièrement, de l'enfant qui est face à nous, ce qu'on a, nous, on n'a pas pu être. Et donc ça m'a vraiment, oui, ça m'a, c'est une lecture qui m'a bouleversée. Surtout que son fils, alors qu'elle s'occupait d'autres enfants, son fils, lui, a vécu un drame avec son père et elle ne l'a pas vu. Donc lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Le vrai drame de l'enfant doué ». Voilà, donc c'est assez dur.
Et donc c'est quand même un sujet qui avait été évoqué. On a l'impression que les failles des personnages, y a des moments, enfin des traumatismes, hein, dans chacun de vos personnages, mais il y a aussi un moment des choses qui sont des malentendus, des choses qui sont pas dites, des choses qui sont pas calées au moment de l'enfance. Vous êtes sensible à...
Oui, je suis sensible à ça, mais surtout, je pense qu'il faut se dire que maintenant la parole est vraiment libérée, c'est-à-dire que maintenant les enfants parlent à table. À mon époque, on parlait pas à table, hein. On était c'était la grand-messe. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que moi, je parle des années 80. Je sais pas si vous vous souvenez des années 80. On avait Myriam enlève le haut, Myriam enlève le bas. On avait les femmes qui avaient les seins à l'air sur la plage, et on parlait pas. Donc les corps étaient dénudés, mais par contre la parole n'était pas libérée. Et maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire que les femmes, on n'a plus. Moi je me souviens quand je me baladais dans la rue à Paris, il y avait ces, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces cinémas porno. Vous aviez plein d'affiches qui étaient vraiment très explicites. Pour nous enfants, on voyait des femmes nues partout, les sex shops pareil. Et maintenant la parole est libérée, tout est caché. Donc c'est très bizarre comme rapport au corps, et très bizarre comme rapport à l'échange. On est informé de tout, et en même temps il y a une sorte de, on est dans une sorte de prison d'interdit, enfin beaucoup plus qu'à mon époque. Moi, quand je dis à mes enfants que on prenait la mobylette sans casque, c'était impossible, quoi. C'est impossible pour eux de comprendre ça. Donc c'est d'une autre époque que je parle aussi. Et c'est vrai que cette époque-là, c'est l'époque qui maintenant ressurgit. Parce que quand on parle de viol, on ne parle, il n'y a pas que des femmes qui sont violées. Il y a des hommes aussi qui ont été violés. Et là, en Angleterre, vous avez à peu près 400 footballeurs qui portent plainte contre des entraîneurs parce qu'ils ont été violés quand ils étaient jeunes. Ils ont 45, presque 50 ans. Et ils portent plainte parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de prescription. Et donc, ce que je veux dire, c'est simplement, je parle d'une époque où la parole n'était pas libérée.
Oui, et puis vous, il y a aussi toute la complexité des rapports entre les hommes et les femmes, et en tout cas la place de la femme dans la société, la place de la femme amante, oui, la place de la jeune fille adolescente. Mm-hmm. Il faut dire que la narratrice, enfin l'héroïne, pour parler du viol, emploie le terme d'accident.
Oui, c'est-à-dire d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà.
Ça.
Alors oui, parce que c'est réellement un accident, c'est-à-dire que c'est sa façon à elle de traiter ça, c'est-à-dire qu'elle se dit elle n'y est pour rien. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes y sont pour quelque chose, mais en l'occurrence, elle va prendre sa douche un soir dans un camping et trois hommes arrivent. Elle ne sait pas d'où ils viennent, elle ne les a jamais vus. Ils repartent, elle ne saura jamais qui c'est. Donc c'est pour elle un accident. Et puis il y a ce gendarme qui vient la voir, qui lui dit ne porte pas plainte parce que si tu portes plainte, tu vas être obligé de te retrouver face à ces agresseurs et peut-être qu'on va instiller un doute. Et ce doute de est-ce qu'elle n'a pas finalement fait quelque chose qui, pas qui mérite le viol, mais qui aurait incité ces gens à la violer. Donc c'est tout le problème de la défense aussi des accusés. Et ça, c'est ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est-à-dire que parfois, c'est une double peine. Ça peut être une double peine. Donc il faut être vraiment très armé aussi pour pouvoir porter plainte et pour pouvoir se retrouver face à cette justice qui finalement défend parfois des monstres. Et donc voilà, donc pour elle, elle parle d'accident.
Oui, après c'est pas facile. Elle est très dure, hein, avec le monde de la justice. Elle, oui, est la fine équipe du barreau.
Oui.
Vous aviez envie de dire quelque chose aussi de ça, oui, de l'après, même si les coupables sont peut-être.
Oui, parce que j'ai rien contre les avocats, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cynisme. Hein, mais c'est normal. Ils ne peuvent pas. Vous savez, c'est comme parfois dans des associations, c'est comme on ne peut pas avoir trop d'empathie, parce que trop d'empathie, ça veut dire qu'il y a un lien qui se crée et que parfois les personnes qui sont en détresse vont vouloir vous happez, vous expliquez tout et vous mangez finalement. Et donc les avocats, moi je l'ai vécu dans d'autres affaires, ce côté, pendant un certain temps je vais m'occuper de toi, puis après, voilà. Et après on est seul. Et donc ces jeunes filles, donc je me suis beaucoup documentée, ces jeunes filles, ces jeunes femmes se retrouvent seules après. Donc la fine équipe du barreau, c'était pour ça, oui. C'est-à-dire qu'on, et c'est ce que je dis à un moment, je dis on partage le destin des taureaux qui ont été graciés, mais qui porteront à jamais les lames des picadors. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a la liberté, mais on a quand même dans le dos, on a des cicatrices.
Ouais, c'est terrible. Et vous disiez, parce nous avons eu la chance de réaliser un petit film de votre livre avec vous, vous disiez, moi j'écris pour informer.
Oui, ça me tient à cœur, c'est-à-dire que je fais partie d'associations, je soutiens des associations de femmes battues, de violences psychologiques, d'hommes aussi, hein, pas seulement des femmes, parce que on a l'impression comme ça que je suis une féministe pure et dure avec le porte-étendard et je boule des soutiens-gorge. Je suis féministe, une féministe qui aime les hommes. Donc je suis une femme qui pense qu'on peut avancer ensemble, main dans la main. Je ne suis pas pour la parité pure et dure, parce que je pense que c'est aussi la compétence des gens, et j'ai envie que les femmes aient leur place dans la société, mais je veux pas qu'on l'ait en se battant. Je trouve que se construire contre quelqu'un, je veux entendre l'autre partie, je veux qu'on avance ensemble, et je pense qu'on peut y arriver. Je pense réellement qu'on peut y arriver.
Et alors, parce que vous dites que vous vous engagez, vous êtes disponible, pourquoi avoir voulu choisir la forme romanesque plutôt qu'un un essai pour évoquer ce thème?
Parce que je suis meilleure, je crois, pour raconter des histoires. Et puis en même temps, ça me permet de me mettre un peu à distance aussi. Je pense qu'un témoignage ou un essai, je pense que j'aurais pu y laisser des plumes. Alors qu'avec un roman, écoutez, il y a tellement de choses à raconter aussi autour de ces personnages. Je pense que c'est aussi une façon de me protéger.
Mmh. Ouais. Oui, c'est amusant parce que vous parlez de protection. C'est l'héroïne qui dit à un moment, on met toujours trop de soi dans un premier roman.
Oui.
Est-ce que vous avez peur de mettre trop de vous?
Ah, j'en ai mis beaucoup, hein. non, j'ai pas peur de mettre trop de moi, mais je veux pas non plus. Moi, j'écris ce que j'ai envie de lire. Raconter mon histoire, je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu noyer dans un thriller, dans une histoire d'amour, dans une histoire de cette femme qui vieillit, dans les rapports avec les voilà. J'aime bien quand il y a plein de sujets dont on peut parler et qui peuvent. Alors j'informe, à travers tout ça, j'essaie d'informer, j'essaie de donner des clés, j'essaie de faire comprendre comment fonctionne une femme qui arrive à la cinquantaine, qui est mon cas, et puis comment fonctionne. Alors aussi des salons littéraires, parce que là, je parle beaucoup des salons littéraires parce que c'est un
vous
truc.
Vous n'êtes pas tendre non plus avec le monde du livre.
Mais c'est extraordinaire, les salons littéraires.
C'est une manière de mettre
les choses colonie de vacances.
À distance, un petit peu.
Non, c'est raconté parce que quand on est lectrice et lecteur, ce qui était mon cas il y a quelques années, avant que je commence à écrire, je savais pas ce que c'était qu'un salon littéraire. Et donc, je voyais ces auteurs-là, je me disais, waouh, c'est incroyable, ils sont derrière leur bureau, ils sont machin. Et puis, je raconte ce qui se passe derrière, en fait, dans ce livre. Et ça m'amuse. Toujours pareil, j'informe.
Oui, c'est ce personnage qui écrit énormément, mais qui a une écriture et qui fait paraître des livres suivant une saisonnalité, plutôt roman de l'été, qui a mis, elle, beaucoup de distance et qui se dévoile de moins en moins. Quel regard vous portez sur elle?
Alors, c'est marrant parce que je me suis inspirée de, je dirais pas le nom, hein, mais il y avait dans un salon une femme comme ça qui vend énormément de livres et qui arrivait avec son entourage, et puis alors elle faisait attendre tout le monde, et puis elle arrivait, elle signait trois bouquins, elle allait boire un café, puis elle revenait, puis il y avait une queue devant son truc. Oh, je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle peut faire ça? Et je me suis inspirée de ce personnage-là, justement, qui au début, c'est vrai, a eu un très gros succès sur un très beau livre, et qui petit à petit a abandonné tout son style, et a commencé à faire des romans qui marchaient. Voilà. Donc j'ai pas de regard. Pareil, c'est un personnage que j'ai vu et qui m'a beaucoup fait rire.
Oui, je pense que ça peut être agréable aussi pour le lecteur de découvrir justement les coulisses. Ouais. Hein, il y a un joli jeu de mise en abîme dans ce livre.
Ouais, ouais.
Et justement, l'amant, Léo, c'est le, le romancier.
Par excellence, il a des cheveux bouclés, les cheveux dans le vent, il écrit un beau roman, un roman d'amour, il est voilà, bon. Et il est doux, il est gentil, il est femme, bon, voilà, il est l'homme idéal qu'une femme de 50 ans peut rencontrer, se dire si je l'avais rencontré il y a 20 ans, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Et puis en fait, non. Voilà, non, je te laisse, je te quitte. Voilà, bon, c'était très bien, mais je te quitte. Et c'est ce que j'aime bien dans ce personnage d'Hélène. Moi, je suis très sensible à ce personnage parce qu'elle est, elle est cash, quoi. Elle est, voilà.
Pour revenir un petit peu justement à l'héroïne et aux thématiques de vos différents romans, il me semble quand même que chaque roman évoque. Vous prenez à bras le corps des problèmes de couple, des problèmes féminins, et on a l'impression qu'on avance comme ça au fil de vos livres, avec toujours ces questionnements. Ce premier roman qui évoquait le pervers narcissique. Vous parliez à un moment des failles.
Oui. Ben oui, voilà. Je pense qu'on a tous des failles. On a tous des failles. Bon, le pervers narcissique, moi, ce qui m'intéressait, c'était. Alors, vous allez vous dire, je suis cynique par rapport à ça, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était. Ça s'appelle L'Autre, et c'est deux femmes qui ont perdu leur mari dans les attentats du 11 septembre, qui se retrouvent 10 ans après, et qui finalement ne sont pas, absolument pas en deuil parce qu'elles ont été débarrassées de deux salauds. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait face à un deuil comme ça, où tout le monde doit être... C'était des héros, tous les hommes qui étaient dans les tours, étaient des hommes et des femmes étaient des héros. Personne ne s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas parmi ces gens-là des gens qui finalement, comme dans un accident d'avion, qui finalement faisaient l'enfer à la maison. Et si, malgré tout, ben, il n'y a pas eu une libération des femmes de ces victimes ou des hommes de ces victimes. Donc c'est un questionnement aussi. C'est-à-dire que la mort, elle met un... On doit dire que la personne était merveilleuse. Et après, on se dit, les vraies victimes sont celles qui restent. Et qu'est-ce qu'elles font de ça? Elles peuvent plus rien dire, quoi. Et c'est ça qui m'intéressait aussi dans mon premier roman. Donc c'est vrai que j'aime bien prendre un peu le contre-pied. Cette femme, elle a été violée dans Qui l'emporte mon secret. Et elle va dans des clubs échangistes. Et elle a un nombre incalculable d'amants. Donc... C'est ça que j'aime bien twister un peu le truc. Voilà.
Mais vous y arrivez parfaitement avec brio. Et vous mettre dans la peau, utiliser un personnage masculin un jour.
Je suis en train de le faire là en ce moment.
Ah, très bien.
Je suis en train de faire un vieux bougon.
Vous avez peur des étiquettes qu'on pourrait donner sur un écrivain et son parcours? Ah oui, elle écrit sur les femmes, elle s'intéresse aux femmes.
Non, pas du tout.
Tout à l'heure, je suis pas féministe. Enfin,
non, je suis féministe, mais ouais, non, mais pas du tout, parce qu'après, après, si on a des choses à dire et s'il reste encore des choses à dire et si on a le bon moyen de faire passer tout ça, si le roman est bon, je vois pas pourquoi. Moi, c'est vrai que ça m'importe, hein, la femme dans la société, c'est vrai. Mais je pourrais très bien parler. Mais je pense que là, je suis en train d'écrire mon histoire sur mon vieux bougon. Il a une femme quand même, donc je pense que je parlerai de la femme.
Et on en parlait tout à l'heure en coulisses. Ce livre-là, il est écrit avec beaucoup de précision. Il y a ces temps qui sont nommés, ces retours en arrière. Il y a une dimension, il me semble, assez cinématographique. Est-ce que vous l'imagineriez adapté au cinéma?
Alors, j'ai mon premier livre qui est adapté au cinéma. Donc ça, je suis très contente et je suis ravie parce que la réalisatrice qui va le réaliser est une femme qui est tout en finesse, tout en... Voilà, on en est pratiquement au casting.
Vous pouvez nous en dire plus?
Pas beaucoup,
pas
pour l'instant, je ne peux pas. Mais voilà, donc ça va être adapté au cinéma. Et ce qui est d'ailleurs étonnant quand on a un livre qui est adapté, moi je savais pas du tout, j'ai assisté à deux réunions de scénario, et c'est une interprétation du livre en fait, ça n'a plus rien à voir avec le livre, et c'est très étonnant. Et alors ce sont pas mes bébés, hein, les livres, je suis d'accord. Pas du tout en train de dire oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Non, c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est une lecture, c'est une relecture. Alors celui-ci, est-ce que je pourrais le voir en film? Oui. Oui, pourquoi pas. Mais alors, il faudrait tout refaire. Donc, il faudrait tout reprendre à zéro.
Vous vous sentiriez prête à participer au scénario?
Non, non, ça c'est non, non. Vous savez que moi, je sais changer une roue, puis quand il y a un autre problème, je l'amène chez le garagiste. C'est-à-dire que c'est des métiers totalement, des compétences totalement différentes. C'est impossible pour moi d'écrire un scénario. Non.
Oui. Tout à fait. Après, voilà, c'est accepter aussi de lâcher prise et d'accepter que le livre devienne, enfin que le film devienne complètement autre chose.
Vous savez, on lâche prise quand on, dès qu'on fait lire le manuscrit, on lâche prise. Donc après, si on s'accroche à son livre comme à s'approprier, moi j'accepte toutes les critiques. Constructive, évidemment, mais toutes les critiques, parce que bah, vous savez, quand on écrit, on se met en danger, hein. C'est plus personnel, c'est-à-dire qu'après, c'est sur un style, c'est sur une écriture, t'aurais peut-être dû faire ci, pourquoi pas.
Ouais. Comment elle s'est passée, l'écriture, justement, de ce livre ?
Très bien, parfaitement. Non, je vous dis, c'est...
Sérénité ?
Bah oui, avec mes enfants qui criaient à droite et à gauche, ils passaient leur bac, moi sur un coin de cuisine en train d'écrire mon petit livre. Donc voilà, non, ça s'est passé très bien. J'ai pas besoin, vous savez, je suis pas le mythe de l'auteur qui a besoin de son thé vert vu sur la campagne, le silence, machin. C'est pas, non, moi j'écris partout, j'ai toujours un petit carnet.
Sachant que c'est quand même un livre où vous mettez une partie de votre histoire personnelle. Ça n'aurait pas pu être votre premier roman. Il arrive à un moment particulier pour vous aujourd'hui.
Bah, il arrive au moment où j'ai mon Olivier Bétourné, donc le patron du Seuil, et Nathalie Fissmann, mon éditrice, me disent Sylvie, faut que tu mettes tes tripes dans ton prochain. Et je me dis bah j'ai déjà mis quand même pas mal dans les deux premiers. Non, faut que tu ailles plus loin. Et là, c'est arrivé à ce moment-là. C'est eux qui m'ont dit allez, tu nous racontes ce que tu veux, mais là on veut vraiment quelque chose de... Et ça m'a titillé. Ouais.
Et finalement, vous avez réussi à écrire quand même dans la sérénité et en mettant les choses à distance.
Oui. Mais vous savez, je pense qu'on peut pas écrire tant qu'on n'a pas. Enfin, moi, j'ai écrit comme une histoire, c'est-à-dire que je sais, j'avais 16 ans, donc maintenant j'en ai voilà
un peu plus
51. Donc c'est vrai que bon. Si j'ai envie de transmettre cette histoire, il faut que je le fasse de façon plutôt légère, parce que sinon je replonge, donc je n'ai pas du tout envie de replonger.
Oui, donc finalement le temps a peut-être joué aussi sur les choses.
Tout à fait, oui.
Pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance du livre, je voudrais qu'on évoque peut-être les paysages qui sont présentés. Quand même les montagnes qui sont assez importantes. Oui. Hein, il y a le Briançon, Grenoble. Oui. Oui. C'était un choix.
Non, c'était pas un choix. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a un personnage qui est vrai, qui est la directrice de la prison de Nantes, qui est une amie. Et je voulais que ça se passe un peu en Bretagne, parce qu'à chaque fois dans mes livres, j'ai mes racines bretonnes et je veux qu'il y ait des passages qui soient en Bretagne. Et donc, voilà, pour moi, c'était quelqu'un, ça se passait en Bretagne, il était arrêté en Bretagne, il allait en prison en Bretagne. Et puis un jour, j'ai rencontré un avocat qui m'a dit « Ah non, pas du tout ». Non, ça devait se passer du côté de Grenoble, et puis il était en prison en Bretagne. Et pour l'appel, je dis ça va être au tribunal de Rennes. Et il me dit mais absolument pas, tu es obligé de retourner de l'autre côté, là où c'est passé, où il a été jugé la première fois. Donc tout a été presque au dernier moment, il a fallu que je change tous les paysages. Et Grenoble, j'y suis jamais allée. Et c'est là qu'il y a donc la cour d'appel, et donc je me suis documentée sur Grenoble. C'est ça qui est aussi fascinant dans l'écriture, c'est qu'on donne l'impression d'y être allée. D'ailleurs, là, je suis invitée à la FNAC de Grenoble, ils sont tout contents parce que ça se passe à Grenoble, mais je suis jamais allée à Grenoble. Donc,
ce qui est étonnant, c'est que c'est aussi un décor qui participe à l'ambiance du livre. Oui. On imagine complètement cette héroïne qui est entre ces montagnes autour d'elle.
Ouais.
Et,
Mais ça aurait pu se passer en Bretagne avec les falaises.
C'est vrai.
Donc mais c'est vrai. Ouais. J'aime bien les paysages comme ça, un peu durs. Ouais.
Et pour continuer sur les ambiances qui sont distillées au fil du texte, il y a trois nuits qui rythment.
Oui.
C'est à la fois la nuit du viol, qui est terrible, c'est une nuit blanche de l'héroïne qui n'arrive pas à dormir, qui cite à l'envi différents films qu'elle a vus et qu'elle apprécie. C'est aussi la nuit qu'elle a passée avec son amant. Mm-hmm. Ces nuits, elles sont venues au fur et à mesure de l'écriture, ou c'est vraiment trois socles sur lesquels vous avez travaillé au fil du...
Elles sont venues, non, au fil de l'écriture, parce qu'elles devaient écrire aussi pendant la journée, mais je trouvais que ça n'avait pas grand intérêt. Je trouvais qu'elles devaient être accompagnées par la nuit. Et puis les insomnies, moi je suis insomniaque, donc c'est vrai que ces allers-retours à la salle de bain, on se met à droite, puis on essaie, on se dit ça y est, allez, c'est bon, j'ai la bonne place, et puis d'un seul coup on sent qu'on... voilà. Et tout ça, je le connais tellement bien que je voulais le décrire aussi, l'insomnie, je voulais la décrire, les cigarettes fumées à 4h du matin, 5h du matin... voir le soleil se lever, ne pas pouvoir se recoucher. Non, ça, je voulais aussi le décrire, parce que c'est un rythme de vie.
Oui, il y a aussi tous les rituels de la nuit, effectivement, que vous évoquiez, ce souci d'addiction à l'héroïne.
Oui, elle boit beaucoup, elle fume beaucoup. Mais ça fait partie, alors ça, je l'ai appris, ça fait partie d'une sorte de boulimie qu'on peut avoir quand on a les scarifications, les choses comme ça. C'est des symptômes de quelqu'un qui a vécu un traumatisme et qui va se lancer après, soit dans la nourriture, enfin dans la boulimie, donc ça veut dire manger, se faire vomir. Et puis sinon, tous les excès, en fait, rechercher le danger. Voilà.
On peut dire que c'est plutôt une héroïne... sombre qu'une héroïne solaire.
Moi, je la trouve solaire. Je la trouve solaire. Moi, je la trouve gaie finalement. C'est vrai que c'est sombre, mais enfin, vous savez, moi, mon plus beau roman d'amour, c'est Plateforme de Michel Houellebecq. Donc,
d'accord.
J'ai une conception de l'amour qui est un peu spéciale, mais je la trouve plutôt solaire. Je la trouve plutôt solaire. Je la trouve plutôt optimiste, oui, malgré tout, parce qu'elle elle écrit avec beaucoup de recul aussi. Hein. Donc elle se livre, mais en même temps elle maîtrise tout. Elle est toujours dans la maîtrise.
Ah oui, de toute façon elle n'est pas dupe à aucun moment.
Non, à aucun moment.
Elle est consciente du cynisme ambiant.
Oui.
Et elle l'est aussi un petit peu. Est-ce qu'elle évolue au fil du livre?
Je crois
sans dévoiler évidemment l'issue du roman.
Oui, elle évolue. Oui, elle évolue. Elle évolue, mais je pense que Léo, c'est la douceur. Donc en fait, elle a une armure, elle s'est créée une armure, et puis elle est confrontée à la douceur de cet homme, et puis elle sait pas gérer la douceur. Donc elle est perdue. C'est pour ça qu'elle lui écrit cette lettre de rupture, parce qu'elle ne sait pas comment faire, enfin que faire de l'amour. Et puis elle a des sentiments qui, puis elle est fragilisée par cette rencontre en prison. Elle est fragilisée par la rencontre donc de cet homme qui fait appel de son procès, et en même temps elle a rencontré ce Léo. Alors elle est très honnête parce qu'elle est avec quelqu'un, elle quitte la personne, elle passe la nuit avec Léo, le lendemain elle quitte la personne avec laquelle elle dit « je ne peux pas tromper, je ne sais pas tromper ». Donc elle est honnête, mais elle est toujours en maîtrise quand même. Voilà.
Elle fait des ateliers d'écriture, est-ce que en prison, que vous, il vous arrive de faire ce genre de choses?
Oui, dans des associations pour femmes, je trouve que l'écriture c'est un moyen alors c'est terrible parce que en prison, un moyen de s'évader, c'est un peu
ridicule. Oui, elle le dit d'ailleurs.
C'est un moyen de s'évader.
Il y a des consciences.
Mais c'est vrai que l'écriture, c'est les ateliers d'écriture, c'est formidable parce qu'on a, moi j'ai fait rire des femmes qui avaient vécu des choses incroyables, traumatisantes. Et qui se sont mises à écrire des choses très drôles. Donc après, elles le lisent, elles prennent confiance en elles, quoi. Surtout de faire lire à haute voix ce qu'on a écrit. C'est assez intéressant comme exercice.
Donc c'est quelque chose qu'évidemment vous avez envie de continuer.
Oui, moi j'adore les ateliers. Moi j'aime les signatures, j'aime rencontrer le public, j'aime rencontrer les gens, j'aime transmettre, j'aime écouter, j'aime entendre. Enfin voilà, donc j'aime aider aussi. Donc
Écoutez, nous, en tout cas, nous sommes ravis de vous écouter. Peut-être que pour terminer la rencontre, vous pourriez nous lire simplement, si vous en êtes d'accord, peut-être le début du roman.
Lundi 7 décembre 2015, 3h30 du matin, Grenoble, Parc Hôtel, chambre 305. Plein soleil, le feu follet, la femme infidèle, mort d'un pourri, la sorcière, Raphaël ou le débauché, la ligne de démarcation, trois chambres à Manhattan, Max et les... Non, ça c'est avec Piccoli. Je n'ai aucun souvenir précis de la nuit au cours de laquelle m'est venue l'idée absurde d'égrener la liste des films de René, Ventura, Denner ou Mastroianni pour combattre mes insomnies. Non seulement ça ne fonctionne pas, puisque je finis toujours par chercher sur mon portable le titre que j'ai sur le bout de la langue, mais il est en plus démontré scientifiquement que la lumière des écrans affecte les rythmes circadiens de façon bien plus nocive que n'importe quelle drogue. Plein soleil, le feu follet, je reprends la liste à voix basse. Dans la chambre 305, le spectacle est désolant. Mon corps en travers du lit, en une croix molle, yeux grands ouverts, les draps sont chauds, l'oreiller trop mou, les rideaux mal tirés, langue pâteuse, tête lourde mais consciente que le sommeil ne viendra pas malgré mes acteurs fétiches, les mignonnettes d'alcool du minibar vidées d'un trait et les bruits réguliers de la pluie contre la vitre. J'ai cherché la bonne place toute la nuit, furtivement rassurée par un coin de drap frais, position du fœtus, paume jointe sous ma joue gauche, puis sous ma joue droite en me retournant, immobile un instant, celui d'y croire dur comme fer, jusqu'à ce que mes jambes se remettent à bouger. Une bouteille d'eau à portée de la main, des bulles de badois, tièdes maintenant, puisque plus d'évian dans le minuscule réfrigérateur. 6 trajets vers la salle de bain, surtout penser à ne pas tirer la chasse pour ne pas réveiller les voisins. Et là, malgré mes efforts pour rentrer dans le rang et rejoindre les dizaines de corps sagement endormis, seuls ou par deux, à tous les étages de l'hôtel, victoire par abandon. J'ouvre les yeux et observe le plafond en tentant de fixer mes pensées sur ce qui m'attend.
Voilà. Merci beaucoup. Donc le décor est planté. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, je crois que voilà, ces premiers paragraphes voilà, nous disent beaucoup des tergiversations et des obsessions de cette femme. Un très beau début.
Merci beaucoup.
Vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, on va souhaiter une longue vie à ce livre. Pourquoi pas une autre vie à cette héroïne qui pourrait apparaître peut-être dans un autre roman.
Non.
D'accord.
Non.
C'est dit.
Non. Elle va vivre sa vie maintenant. Donc, voilà.
Merci. Et puis, écoutez, voilà, une excellente continuation.
Merci beaucoup.
Pour tout votre parcours.